Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Info Club Sandwich, votre quotidienne d'actualité locale et associative. Cette émission est réalisée par Radio Campus Amiens. Elle est disponible sur le 87.7 FM, sur le DAB+, et sur radiocampusamiens.fr. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anthony Pardy de l'association On a marché sur la bulle. Il travaille actuellement sur les RDV BD d'Amiens. L'occasion parfaite de discuter avec lui de cet événement BD qui court jusqu'au 23 juin 2024 à la Fraissinet.
Pour info, tu travailles pour l'association On a marché sur la bulle.
Yes.
Tu es aussi bénévole chez nous puisque tu animes l'émission Bulldozer qui est un chef-d'œuvre radiophonique.
Ah mon dieu, que d'honneur.
Est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu ton rôle au sein de l'asso dans un premier temps?
Carrément. Moi, je suis récemment devenu coordinateur des rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens. Donc, je travaille avec l'année avec la nouvelle directrice du festival Sophie Mille, de son doux nom. Et du coup, mes missions se structurent autour de préparer le festival en amont, donc sur un an. En gros, l'édition va se terminer fin juin, on va déjà penser la prochaine en juillet, donc c'est du taf à l'année. Et à côté de ça, je suis aussi responsable manga au sein de l'asso, donc ça va être développer des projets culturels autour du médium manga. Donc en l'occurrence, en ce moment, c'est beaucoup d'expositions qu'on propose, mais à terme, on aimerait bien développer des supports de médiation et d'autres formes qui touchent au manga, mais qui sont différentes qu'une exposition.
Concrètement, ce festival, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu depuis quand il existe, pourquoi il a été créé?
Alors, le festival a été créé à la naissance de l'association On a marché sur la bulle, et si je dis pas de bêtises, c'est 96, avec une première édition en 97 ou en 96, je sais plus, il faudra vérifier. On a un super Drama Life sur notre chaîne YouTube qui raconte très bien la genèse de l'asso.
Et c'est aussi des choses que vous avez racontées avec Axel dans l'émission
Carrément,
Bulldozer,
dans Bulldozer, on y revient. Je crois que c'est épisode 1 où on fait la genèse de tout ça. Et donc, du coup, l'asso a quasi 30 ans. Là, on fait les 28e rendez-vous, même si on compte pas l'année Covid où on a appelé les rendez-vous à l'année 2020 et on l'a pas appelé par l'édition qui respectait la fourchette temporelle des éditions. Donc, quasiment trentaine d'années d'existence. On a développé un public très familial. On a beaucoup axé sur le jeune public. On est assez brillant, je trouve, dans tout ce qui va être support de médiation, que ça soit avec notre service éducatif qui est composé de 4 personnes très talentueuses et très très passionnées par leur métier. Qui vont se balader voiture en main dans tous les Hauts-de-France pour aller prêcher la bonne parole de la bande dessinée. À côté de ça, on a un espèce de département qui s'appelle le département ressources et créations, dans lequel va se trouver notamment Cadra, qui est notre chargé des relations partenaires et qui, elle, à l'année, va travailler avec des structures culturelles amiennoises pour développer des projets qui mélangent et notre savoir-faire en bande dessinée avec d'autres savoir-faire. Du coup, tu vas avoir Minuit avant la nuit, tu vas avoir le cirque, des trucs plus axés sur le livre avec Partir en livre ou La nuit de la lecture. Alors, tu vois, il y a tout un tas de choses.
Il y a énormément de choses.
Complètement.
Vos objectifs, c'est de la médiation, c'est aussi donner accès de la culture à votre public, c'est de les faire rencontrer les auteurs au public. Le festival, tu l'as dit, il existe depuis 28 ans.
Ouais.
C'était quoi le bilan de l'année dernière et du coup, comment vous vous êtes réajusté? C'est quoi vos objectifs cette année?
Alors, le bilan de l'année dernière, on a un peu pêché en communication, mais c'était pas vraiment de notre faute à nous, avec d'énormes guillemets. Moi, il n'y a rien à envier à l'année dernière. Je trouve que cette année, on a réussi pari de proposer des expositions qui vraiment ont plu au plus grand nombre, même si ce plus grand nombre-là n'avait pas forcément d'appétence avec ce que ça proposait. Tu vois, par exemple, on a une exposition sur une BD qui a 30 ans, qui plaît à ceux de cette génération-là, mais qui plaît aussi aux plus jeunes. On a du manga, qui généralement plaît à un public plus jeune aussi, mais qui là a plu à des parents, à des grands-parents, enfin tu vois. On a réussi ce pari fou de créer des ambiances et des atmosphères qui font que les gens, même s'ils n'ont pas d'appétence, ils passent un bon moment. Et comparé à l'année dernière, au niveau de la fréquentation, on est à quasiment plus 1000, ce qui fait plaisir, hein, parce que quand tu travailles un an sur un événement...
Alors là, qu'on est qu'à la moitié du festival aussi, je le précise.
Exactement, on a passé le premier week-end de temps fort, qui est carrément le temps fort historique, qui est identifié par le public amiennois comme étant le temps fort, même si depuis quelques années, Covid nous a obligés à distiller nos festivaliers, enfin du coup, l'affluence de ces festivaliers en 4 week-ends, et cette formule-là a payé sur le Covid, ce qui fait qu'on a réitéré la chose les années suivantes. Je crois que là on a la quatrième année, troisième année où on tente cette formule des 4 week-ends, dont 2 temps forts, le premier et le dernier. Donc là on va attendre le dernier week-end de temps fort qui sera le 22 et 23 juin, ce que ça va donner. Il y aura toujours une programmation artistique travaillée aux petits soins, des auteurs et des autrices présents, toujours la possibilité de visiter ou revisiter les expositions. Donc voilà, on essaie de faire en sorte que le public passe un bon moment, et même si on vient le premier week-end pour les auteurs et les dédicaces, on peut se permettre de venir un week-end intermédiaire pour juste visiter les expositions, sachant qu'il y a aussi des médiateurs qui sont présents et qui sont à même de vous expliquer le pourquoi du comment les gens ont décidé d'afficher ça. Donc je trouve ça assez intéressant quand même.
Chouette. Donc là il reste deux week-ends à l'heure où on se parle. Ouais. On va peut-être commencer par les 15 et 16 juin. C'est surtout consacré aux expositions.
Exactement.
Concrètement, quelles expositions on va retrouver à ce moment-là? Est-ce que tu peux nous les présenter très rapidement et peut-être insister sur l'exposition où on enregistre finalement, le lieu d'exposition où on enregistre cette émission?
C'est très imbu de ma personne d'avoir dit qu'on enregistre là quand même. Si on fait de manière... on part du fond de la halle, donc quand vous rentrez de l'Agora, vous allez à gauche tout au fond, il y a l'exposition Turf, portée sur la Nef des Fous. Donc Turf, auteur de bande dessinée qui a une grande carrière dans le domaine, qui a fait la Nef des Fous, 12 tomes de paru, le 13e va sortir en octobre 2024. Donc c'est un univers assez steampunk, fantastique, où on va suivre trois intrigues différentes. Une première intrigue avec... deux policiers à la recherche d'un trafic de coloquintes, un grand roi et son coordinateur, oui c'est un peu la... c'est des jeux politiques assez étranges, et la disparition de la fille du roi me semble-t-il, ce qui fait qu'on démarre de ce postulat-là, et les commissaires d'expo ont accès sur une scénographie assez intéressante, ça fourmille de détails et d'univers, enfin l'univers est assez folklorique, du coup ça fourmille de détails en tout genre. L'auteur en plus est un grand fan de produits dérivés, donc tu vas pouvoir retrouver des fèves, des figurines, des tickets de postaux, enfin tu vois, des choses à l'ancienne, donc ça c'est trop chouette. Si on remonte un peu plus, on a le coup de projecteur à Alif Bata. Donc Alif Bata, maison d'édition indépendante qui publie de la bande dessinée en langue arabe. Donc ça c'est aussi un peu notre savoir-faire de mettre en avant une maison d'édition qui plaît à la cellule artistique du festival. En l'occurrence ça a été Alif Bata cette année. On remonte encore un peu, on a Bulle Verte, donc exposition thématique autour de l'écologie, forcément avec un titre aussi intrigant, on se dit ça va parler d'écologie et c'est le cas. Et ce que veut l'exposition, c'est que ça soit pas du tout moralisateur, c'est qu'au contraire on réfléchisse toutes et tous à diminuer notre empreinte carbone et avoir les bons réflexes pour faire en sorte que ça aille mieux. On remonte encore un peu, on arrive à Anna et l'Entremonde, exposition jeunesse. Donc Anna et l'Entremonde, c'est la série. Le titre de l'exposition, c'est Cap vers l'Entremonde. Cap sur l'Entremonde ou Cap vers l'Entremonde? Je sais plus. Ils m'en voudront pas, je pense. Bref, une exposition portée par une tripotée de commissaires formidable, dans laquelle on va retrouver l'ambiance maritime propre au récit. On débarque du coup dans le bateau, concrètement dans le bateau de Christophe Colomb. Sauf que le bateau de Christophe Colomb dans le récit Anna et l'Entremonde, il va tomber dans la mer, et il va arriver dans ce qu'on appelle l'entremonde. Et donc du coup dans l'exposition on bascule aussi vers l'entremonde. C'est très très bien scénographié, quasiment tout ce que vous allez voir en décor a été fait par les commissaires d'exposition, notamment Timothée Ninon, que j'embrasse fortement. Ils ont mis des mois et des mois à penser, composer, structurer ces beaux décors. Donc en vrai, on se croirait un peu à Disneyland, tu vois.
Bah, c'est ce que j'allais dire aussi, c'est que là, le Fraissinet, elle est peut-être un peu moins pratique en termes de localisation, et encore, que la fac de droit. Ouais. Mais mine de rien, vous avez un espace monumental pour faire à peu près tout ce que vous voulez, quoi. C'est un peu l'impression qu'on a, c'est ça. Dès qu'on arrive, on se dit, ok, là, ils ont les moyens de mettre de très belles choses en place, quoi. Actuellement, on est dans un terrain de volley, quoi.
Oui, dans un terrain de volleyball. Justement, on next le terrain de volleyball juste pour passer à l'exposition sur Guillaume Saint-Gelin qui s'appelle L'Explosition. Donc Guillaume Saint-Gelin, auteur émérite du label 619, rue de Sèvres maintenant. Du coup, l'exposition est une rétrospective sur 4 de ses albums, The Grocery, Lobaloka, PTSD et son dernier en date, Frontier. Frontier étant celui qui a un peu, pas propulsé sa carrière, mais qui lui a fait un peu acquérir cette lettre de noblesse, étant donné que cet album-là a remporté l'Écofauve Angoulême, ce qui n'est pas rien, en 2024 du coup. Et une exposition aussi très immersive, où on va plonger dans les ambiances propres à chacune des séries. Je vous invite fortement à aller voir la pièce Frontière, qui est l'une de mes pièces préférées de toutes les expositions qu'on a pu faire, de toutes les éditions, parce que franchement, toutes les idées sont très très bonnes et très intelligentes. Et on bascule du côté très jeunesse jeunesse de la halle. Donc quand vous rentrez de l'agora d'entrée, c'est à droite. Vous allez avoir le côté un peu jeunesse avec l'exposition Bibiville, une exposition portée par les éditions, enfin portée par nous, mais par les éditions 2024 dans leur collection 4048. Bibiville étant pour nous comment dire, une exposition primo lecteur, parce qu'on s'efforce à trouver à chaque fois des œuvres qui parlent aux tout petits lecteurs, et Bibiville était un candidat idéal pour le coup. On va retrouver beaucoup de mobilier interactif. Donc tu vois, tu vas pouvoir construire ta petite maison, tu vas pouvoir décalquer sur une table lumineuse, enfin bref, tout est pensé pour les enfants, une sortie se fait en toboggan, donc ça c'est formidable. Et enfin on termine ce tour de halle, excepté le volleyball, avec Olive. Donc Olive qui est une série jeunesse de Lucie Mazel au dessin et Véro Caso au scénario, de 4 volumes chez les éditions Dupuis. Donc Olive, pour faire le postulat de base, elle a 17 ans, elle vit reclue dans son monde imaginaire. Et un jour dans la réalité où elle vit, enfin la réalité de nous quoi, il y a un astronaute qui disparaît et qui va se retrouver dans son monde imaginaire, et de là démarre cette intrigue. Et du coup les commissaires d'exposition ont imaginé une immense tente dans laquelle, lorsque tu rentres, tu as une projection réalisée par les étudiants de White Sum qui jouxte avec notre bâtiment, et une projection d'une 1 minute 30 bien animée, bien montée, où tu vas ressentir l'ambiance que peut vivre Olive lorsqu'elle se plonge dans son imaginaire à elle. Et pour terminer, comme tu l'as si bien dit mon cher Rémi, nous sommes sur un terrain de volleyball avec l'exposition autour du manga IQ, manga de sport sur le volleyball bien sûr, en 45 volumes édité chez Crunchyroll, donc avec une partie très didactique où tu vas un peu te renseigner sur les différents rôles que joue, enfin les différents postes pardon, qu'occupe une équipe de volleyball, le pointu, le central, le libéro, le passeur et l'attaquant ailier. Et une autre partie un peu plus monstration de reproduction assez imposante. Par exemple sur ce mur que nous voyons, mon cher Rémi, tu vas avoir un contre, un smash, une passe, une réception, un service rentrant. Voilà, une figuration aussi de la relation entre les deux héros, donc Shoyo Hinata et Tobio Kageyama, qui sont autant rivaux que amis, qui partagent cette espèce de synergie folle sur le terrain. Et puis après on se déporte un peu plus loin avec la partie casier, pièce formation, donc voilà, c'est vraiment
immersion dans un univers de volleyball.
Exactement.
Super, merci pour ce tour des expos. À ton avis, très rapidement, si je veux faire toutes les expos en une journée, une après-midi, ouais, combien de temps à peu près?
Alors, ouais, ça va dépendre, parce qu'il y en a qui sont très très denses. Très denses parce qu'il y a beaucoup de choses à te dire.
Une belle demi-journée.
Je pense, oui, une belle demi-journée. Si on veut vraiment prendre le temps de lire tous les panneaux, ce que personne ne fait, et moi je suis le premier aussi à pas le faire, parce que oui, en fait, à un moment, t'arrives à la troisième expo, il y a beaucoup de choses à lire, c'est sûr que tu vas pas vraiment tout lire au millimètre près, ce qui est normal, attention. Oui, une bonne demi-journée, hein, si tu veux prendre ton temps, regarder, contempler, t'asseoir, feuilleter les bouquins qui sont mis en avant, parce que la plupart du temps, dans les expositions, on met à disposition les œuvres, les livres d'origine, quoi, la genèse du truc.
Et donc tu peux vraiment te perdre très longtemps sur ce site.
Tu sais qu'il y a des gens qui sont restés bien 3 heures dans IQ à faire des trucs, mais je sais pas quoi, hein, mais ils faisaient des trucs.
Bah tant mieux pour eux, c'est cool en tout cas, ouais, de voir que les gens viennent ici et qu'ils adhèrent direct aux expos et puis à ce que vous proposez. Peut-être avant d'aborder la programmation du week-end d'après,
oui,
qui est le 23-24, si
22-23,
pardon.
Te reprendre.
C'est le retour des artistes.
C'est le retour des auteurs et des autrices de BD. Effectivement, la particularité de ce dernier week-end, c'est qu'il est cofinancé par les éditeurs. Donc on crée un nouveau plateau, un plateau dans lequel on nous propose des noms, parce que généralement le plateau du premier week-end se fait quasiment, en totalité même, avec les salariés de la structure et la cellule artistique du festival. Écoutez l'épisode 1 de Bulldozer, vous aurez vraiment tous les détails.
J'allais justement vous raconter ça, c'est que là vous contactez a priori directement les auteurs.
C'est ça.
Voilà, il n'y a pas d'intermédiaire, non, contrairement à d'autres festivals finalement de BD en France.
Ouais, j'ai l'impression que la plupart des festivals, en fait, nous la particularité, enfin pour raconter le truc de base, c'est généralement sur un salon du livre ou une manifestation culturelle ou littéraire, c'est les éditeurs qui viennent, qui payent un stand et qui ramènent leurs auteurs, c'est eux qui gèrent leur propre dédicace, leur planning. Nous, la particularité, c'est qu'il n'y a aucun stand d'éditeur, Donc c'est à nous de prendre contact avec les auteurs, de chapeauter leur venue, de
c'est
chapeauter
leur
planning.
Plus de travail, mais plus de liberté sur la direction artistique.
En fait, si demain, nous, on veut inviter un tel ou un tel, on n'a pas à se dire, tiens, bah non, c'est quelqu'un qui n'a pas d'actualité, du coup, on va pas forcément le faire sortir. En vrai, non, on se dit, cette personne-là, je pense qu'elle pourrait être bien sur ce format-là, et puis... en fait, ça me correspond dans ce que je lis en ce moment. Allons-y. Enfin, on n'aura aucune pression sur nos choix pour ce premier week-end.
Trop bien. Et du coup, là, c'est quoi les bangers ? Quelles sont les grosses têtes d'affiche du dernier week-end du festival ?
Grosses têtes d'affiche du dernier week-end.
Parce qu'on n'aura pas le temps de parler de tous les, de tous les auteurs. Et toi, si tu avais peut-être des recos personnels, lesquels ce seraient, des coups de cœur perso ?
Moi, j'ai un coup de cœur personnel, mais qui date de l'enfance. Il y a le dessinateur de Toto l'Ornithorynque qui vient. Je ne sais pas si vous avez Toto l'Ornithorynque, mais pour moi, c'est une petite Madeleine de Proust, parce que j'adore cette bande dessinée. Il s'appelle Johan, ce garçon. Il a notamment fait Spirou, il a fait quelques Black et Mortimer.
Une légende aussi, finalement.
Une grosse légende,
encore une fois.
Une énorme légende de la BD. Et moi, je suis très heureux qu'il vienne et je souhaite me procurer un Toto l'Ornithorynque. Je pense que ça sera ma seule dédicace de l'année. Je suis très peu dédicace, mais lui, il y a un sentiment de fou. Je pense que les gens aimeront beaucoup aussi Théo Grosjean. Gros nom parce que récemment il a fait Elliot au collège chez Dupuis, qui a plu à pas mal de gens, donc ça c'est plutôt cool. En termes de... On a aussi des mangaka français, notamment Cynthia Lehmann, qui est la dessinatrice de Wakfu, si je ne m'abuse, qui vit aussi dans le coin, donc ça c'est plutôt cool, parce que ça amène aussi une autre communauté de lecteurs et lectrices. En termes de gros noms, que je te dirais comme ça... J'ai plus vraiment toute la liste en tête, mais je sais que c'est beaucoup de nouveautés qui sont parues très récemment, avec des auteurs et des autrices très talentueux. Parce que même si on cofinance ce quatrième week-end, on a aussi cette liberté de proposer des noms d'un catalogue.
Oui, et puis il y a une relation de confiance qui s'est installée avec vos interlocuteurs
bien
maintenant
sûr.
Depuis toutes ces années, donc c'est quand même plus simple pour convaincre.
Et exactement. Donc en termes de noms comme ça... de tête. Nous avons Anne-Laure. Anne-Laure, dessinatrice, je crois autrice aussi, mais à vérifier. Mais elle a réalisé Lady with Gun, qui est un western de sororité. Voilà, je te le décrirai comme ça. Qui a plutôt fait bonne presse et qui est un très bon album, semble-t-il. 3 tomes de paru. Je vous invite à le lire parce que c'est vraiment cool cette ambiance de sororité entre des sœurs qui. Je sais plus si c'est des sœurs.
Bah, la sororité, a priori, c'est des sœurs.
Normalement, mais on ne sait pas. Le deuxième nom qui me viendrait en tête, je te dirais J. Personne, qui a récemment sorti Nuage chez Glénat, que je n'ai pas encore lu, mais que j'ai hâte de lire et j'ai hâte de découvrir l'auteur pour en parler une fois que je l'aurai lu. Parce que ça m'a happé. Tu vois, des fois, tu tombes sur une couverture et tu te dis, tiens, ça, je pense
ouais,
que ça va me plaire.
Quelque chose qui t'interpelle directement sur le dessin, la façon dont c'est fait.
Ouais, tu te dis, j'ai l'impression que c'est un peu mon univers et c'est un truc sur lequel je pourrais y aller les yeux fermés. Donc, en vrai, j'ai hâte de le voir. Et une dernière personne, je te dirais Quintanilla Marcelo, qui a notamment fait Au revoir, Belle Marcia, si je ne m'abuse, de la bande dessinée brésilienne. Qui a aussi son public un peu indépendant, très sympathique à lire, qui était censé venir pour le premier week-end mais qui n'a pas pu, mais qui nous a demandé de revenir pour ce dernier week-end. Et bien évidemment, nous avons accepté.
C'est beau jeu de sa part.
Beau jeu de sa part, beau jeu de notre part, beau jeu de toutes et tous. Donc voilà, en termes de gros noms, bien sûr.
Et
tous
désolé
les autres ne sont
pour
pas
tous
oubliés.
Les artistes qu'on n'a pas pu on citer, mais il y a énormément de noms.
On peut faire un petit big up à toute l'équipe Amiens tome 2. La bande dessinée Amiens tome 2 parue chez Petit à Petit.
Bande dessinée de vulgarisation historique autour
exactement.
De l'histoire d'Amiens.
Avec au scénario le fabuleux et non moins fantastique Guillaume Mani, qui est aussi médiateur du livre chez nous, responsable même service éducatif, et qui sera accompagné de plusieurs dessinateurs et dessinatrices, Anne-Claire Géraudet, Nicolas Etoridé, Lusso Mercaire et d'autres personnes que nous embrassons fortement.
Je rappelle que de toute façon, la liste des auteurs, elle est, on peut la trouver sur votre site, sur vos réseaux sociaux aussi, Facebook, Insta et peut-être d'autres choses.
Twitter,
voilà,
le site RDVBD.
Vous êtes à peu près partout, il y a aussi les affiches dans la ville si jamais.
Bien sûr.
C'est quand même difficile de passer à côté de vous. Donc il y a des expositions au RDVBD d'Amiens, il y a des auteurs, des autrices, des acteurs, des artistes, pardon, mais c'est aussi des événements un peu particuliers. Il y avait la veillée par exemple sur le premier week-end.
Est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est, comment ça s'est passé, et après nous parler d'autres temps forts qui pourraient être organisés d'ici là?
Bien sûr. La veillée, du coup, c'est une initiative qu'on a eue parce qu'on aime bien développer des projets un peu, j'allais dire innovants, mais c'est pas forcément innovant vu que ça existait déjà. Mais on a envie de ramener dans le milieu de la BD un peu de divertissement, tu vois, autre chose que des tables rondes, des conférences ou des masterclass dessinées qui sont déjà très bien, mais on aime bien aller au glas, explorer d'autres choses. Et l'exercice de la veillée, il était intéressant avec des auteurs et des autrices qui déjà avaient des récits autobiographiques, donc forcément peut-être plus à l'aise pour parler d'une anecdote. Donc pour le coup, Patrick Beau n'a pas pu se déplacer malheureusement, mais c'est Damien Maric, son copilote, qui animait la soirée brillamment, c'était formidable. Et sont passés du coup sur scène David Mourier, Isabelle Maroger, Zelba, Si, Fabien Toulmé et Run. Chacune et chacun avait une histoire formidable à raconter. Je l'ai vécu, j'étais derrière la régie à me dire ouais, c'est vraiment trop bien ce qu'il raconte. Ouais, franchement, c'était cool. Bah, ça a été un an de taf, mine de rien, de trouver les bonnes personnes, qu'elles soient dispo, qu'elles aient une histoire à raconter, parce que c'est pas un exercice facile, genre, de s'exprimer devant une scène où il y avait 150 personnes dans le public, de s'exprimer sur un pan de ta vie à toi, une anecdote qui peut être très personnelle, devant des inconnus qui ont payé pour venir te voir. Tu vois, le postulat de base est un peu chelou, mais je les remercierai jamais assez d'avoir accepté l'exercice. Ils sont tous ressortis avec cette espèce d'accomplissement de « aïe, c'est fait, c'est trop cool », comme si t'avais passé ton exposé d'histoire géo. Donc je suis content qu'ils aient dit oui, je suis content du résultat, j'ai maté les rushs ce matin, c'était vraiment cool. Donc on va en faire un quelque chose, de toute façon l'entièreté de la veillée sera disponible sur notre chaîne YouTube. Patrick Beau se réserve le droit de prendre certains extraits ou certaines histoires pour les mettre sur la chaîne La Veillée. Et nous, on va balancer des extraits sur les réseaux sociaux en format vertical.
Donc ça, c'était pour votre premier gros temps fort, un peu différent des expos et des rencontres auteurs. Voilà, c'est quoi la suite? Est-ce qu'il y en a d'autres de prévus?
Bien sûr, vous pouvez retrouver le dimanche 23 juin à 17h au Grand Théâtre de la Macu. Le BD concert sur Londres. Londres qui est le petit nouveau de la collection Dori Micha, donc des éditions de la Gouttière, avec au scénario Frédéric Maupomé, au dessin Léa Mazé. C'est une petite pépite. Graphiquement, c'est très bien exécuté. Léa Mazé, c'est aussi Les Crocs, qui est une formidable bande dessinée. Frédéric Maupomé, un scénariste de génie présent sur beaucoup de récits de bande dessinée qui sont vraiment à lire, formidables. Et du coup, sur la même configuration que les autres BD concerts, donc avec À l'Unisson, L'Évidence, Le Chemin vers Pépé. Donc voilà, c'est en partenariat avec l'Orchestre de Picardie, comme à l'accoutumée.
C'est du lourd.
C'est du lourd, c'est une symphonie. Enfin, c'est vraiment un BD concert comme on y pense. Donc ça va être des symphonies jouées avec en arrière l'animation de certaines planches de la bande dessinée. Donc c'est un spectacle payant au Grand Théâtre de la Macu. C'est aussi un autre de nos temps forts sur ce dernier week-end des rendez-vous de la bande dessinée d'Amien. Donc si vous êtes curieux de voir ça, n'hésitez pas, sachant que bien sûr, sur le festival, il y aura évidemment une programmation artistique aux petits oignons qu'on essaye de vous concocter. Donc voilà.
Merci pour toutes ces infos, Anthony. On arrive à la fin de l'interview, mais on a parlé très rapidement du temps pour voir toutes les expos, etc. Mais on n'est pas rentré dans le concret. Qu'est-ce qui est gratuit? Qu'est-ce qui est payant? Comment il faut s'organiser pour avoir accès aux auteurs? Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça avant qu'on se quitte?
Oui. Alors, l'entrée est gratuite. Voilà. Actez-le dans vos têtes, c'est gratuit. Ça se passe dans une halle entourée de travaux, n'ayez pas peur d'y venir. Je crois que je le répète à chaque bulldozer, mais je vais encore le répéter. N'hésitez pas à venir. Si vous venez par la gare, il y a un linéaire blanc qui a été tracé au sol pour vous aiguiller sur le chemin à prendre. Il y a un énorme panneau de bienvenue qui surplombe un peu cette rampe accès rue de Jean. Ce qui est payant, en fait, c'est juste les bouquins. Les livres sont payants parce que les libraires doivent manger, les éditeurs et les auteurs surtout doivent manger. Et sinon, le reste des activités sur site sont bien évidemment gratuites. Pour tout ce qui va être programmation, si vous voulez organiser vos temps de dédicace, si vous voulez amener vos enfants à des ateliers, le Heure par Heure sortira très prochainement. La programmation artistique du festival complète sortira sur notre site aussi assez rapidement. Donc on peut se planifier très vite son petit parcours de la journée.
Si on s'organise bien, ça passe tranquille, quoi.
Exactement. On peut le matin visiter une expo, aller à une dédicace d'antenne. Hop, je vais à l'auditorium, il y a un format qui m'intéresse. Hop, là, on bascule, j'emmène mon fils à la tente auditorium tente animation, pardon, parce qu'il y a un théâtre d'ombre.
Super, bah merci pour ce programme que je vais essayer de suivre du coup sur le dernier week-end du festival. Encore merci d'avoir répondu à nos questions à mi-chemin, parce que j'imagine que t'es dans le rush et que voilà quoi, il faut quand même donner
mental.
De l'énergie. Merci et puis à la prochaine.
Merci Rémi.
C'est déjà la fin de cette interview. Pour rappel, Anthony de l'association On a marché sur la bulle nous a présenté le festival des RDVB des Damiens qui court jusqu'au 23 juin 2024. Si cette interview vous a intéressé ou que vous n'avez pas pu l'écouter en entier, elle sera disponible dès sa diffusion sur notre site. Info Club Sandwich, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés et à demain.